France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, les recherches en cours dans le Gard pour retrouver 6 personnes, dont 2 enfants, plus un homme disparu en Ardèche après les fortes pluies de ces dernières heures. 10 départements sont ce matin encore en vigilance orange, la plupart pour des risques de crues. Nous ferons un tour d'horizon des conséquences de ces intempéries dans la moitié sud de la France. Contre la pollution des bateaux de croisière stationnés à quai, à Marseille aujourd'hui, manifestation de plusieurs collectifs européens, Stop Croisière. L'actualité à l'étranger avec Joe Biden qui accuse le Premier ministre israélien de faire, je cite, « plus de mal que de bien à Israël ». Les Portugais aux urnes ce dimanche pour des législatives anticipées. L'opposition de droite pourrait les remporter. Les Tibétains qui manifestent dans le monde 65 ans jour pour jour après leur révolte violemment réprimée par la Chine. Du rugby, tournoi des 6 nations. Le match du jour à 16h, le Pays de Galles accueillera la France. Revue des troupes dans un instant. Enfin, nous irons à Hollywood de moins de 12 heures avant le début de la cérémonie des Oscars. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin auprès de 2 cuisiniers qui veulent réhabiliter les poissons boudés par les consommateurs, des poissons repoussants qui sont pourtant très goûteux.
Je vous présente Pépette la Roussette, en rouge. On a aussi la tombe, on a les missoles. La vocation de ce camion, c'est de faire redécouvrir un petit peu toutes ces espèces au grand public.
Et après ce journal, l'esprit sport du Tissot aujourd'hui avec votre invitée Nathalie Yanetta.
Un capitaine au programme, mon cher Eric, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et de la délégation olympique de Paris 2024. Paul-Henri Mathieu sera notre invité. À tout de suite après votre journal.
À tout de suite Nathalie. Et puis nous ferons un point sur le temps de ce dimanche. Nous referons un point. Camille Esnault, nous irons voir comment évolue cette instabilité.
La perturbation se décale vers l'est cet après-midi et amène des averses parfois orageuses.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Les recherches se poursuivent donc dans le Gard pour retrouver 6 personnes après les fortes pluies, notamment un père et ses 2 enfants emportés par les eaux tôt ce matin sur le pont de Dionce. La mère a pu être sauvée par les pompiers. Grégory Julien, vous êtes sur place avec de gros moyens déployés par les secouristes.
Oui, depuis ce matin, un hélicoptère de la sécurité civile survole les gorges du Gardon à la recherche des 3 personnes disparues, un père et 2 enfants de 4 et 13 ans. Des drones sont également déployés pour tenter de localiser leur véhicule. Une 60aine de secouristes sont mobilisés. Certains venus en renfort du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Il y a là des plongeurs avec des barques, des chiens renifleurs, mais aussi des gendarmes qui arpentent les berges du Gardon. Des recherches compliquées selon le lieutenant-colonel des pompiers, Olivier Tudela.
Il y a énormément de débit. Le Gardon s'est beaucoup élargi. Donc, elles sont compliquées. On ne peut plus trop exposer nos personnels parce qu'on n'a pas de zone de recherche bien précise. Donc pour l'instant, c'est assez complexe, mais on a mis les maximums de nos moyens sur le terrain pour essayer de faire le maximum que l'on puisse faire dans les circonstances actuelles.
Reste que les chances de retrouver vivantes les 3 personnes disparues s'amenuisent au fil des heures.
Grégory Julien de France Bleu, Drôme, Ardèche, est toujours dans le Gard. Un sexagénaire est porté disparu, un automobiliste emporté hier soir quand il a tenté lui aussi de traverser un pont submergé à Gagnères. Et depuis vendredi, 150 à 250 mm d'eau sont tombés, principalement sur le nord-ouest du Gard. Il y a près de 180 interventions de secours depuis 2 jours. Voilà pour la situation dans le Gard. En Ardèche également, un homme reste introuvable. On va y revenir. Près de 17 000 foyers sont privés d'électricité en Auvergne-Rhône-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur également. 10 départements sont ce matin encore en vigilance orange, la plupart pour risque de crue. Le Gard donc, en passant par la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques, le Var, les Bouches-du-Rhône et même Lyon également, plus au nord. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Et les préfectures multiplient ce matin encore les consignes de vigilance.
Oui, notamment en Ardèche où, vous le disiez, un homme de 70 ans est porté disparu à Saint-Martin de Valamas, au nord de Privas. Responsable d'une centrale hydroélectrique, il intervenait sur la commune hier après-midi. Sans nouvelles de lui, ses collègues ont donné l'alerte à 19h et les recherches ont pu reprendre ce matin. L'Ardèche, où 4000 foyers restent privés d'électricité, tout comme dans la Drôme voisine en raison des vents violents et des fortes chutes de neige de la nuit dernière. Ce midi donc, 10 départements restent en vigilance orange, essentiellement pour crues. Dans le Var, par exemple, la pluie s'est calmée ce matin, mais la prudence reste de mise. Agnès Bonjean, directrice de cabinet à la préfecture du département.
Les cours d'eau qui étaient déjà gonflés par les précipitations du week-end dernier continuent à se charger, se jettent dans de plus grandes rivières. Résultat, quand on arrive à la confluence, la dernière rivière se gonfle lourdement et là, en l'occurrence, c'est l'Argence, plutôt le secteur est du département qui n'est pas encore arrivé à son pic.
Avec un pic de crue attendu en début d'après-midi. Alors que cet épisode méditerranéen se déplace vers l'Italie, un autre phénomène sera particulièrement observé ce week-end, celui des grandes marées sur les côtes de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique, avec des coefficients très élevés, proches de ce que l'on qualifie de marée du siècle, dont la prochaine était attendue pour 2033.
Attention aux crues, donc, aujourd'hui encore, cet après-midi encore. Merci Sébastien Sabiron. À Marseille, trop de pollution en provenance des bateaux de croisière. Ça suffit, martèle le collectif Stop Croisière, qui organise un week-end de mobilisation européen contre les croisières. Hier, les militants viennent d'Athènes, de Barcelone ou de Rotterdam. Selon ce collectif, un bateau à quai durant près de 10 heures, c'est l'équivalent de 30 000 voitures en circulation dans la ville et au final 2500 morts prématurés chaque année. Les chiffres sont connus à Marseille, mais pourtant rien ne bouge, se désole Rémi, l'un des membres de ce collectif Stop Croisière.
C'est une vraie question et que nous on a toujours soutenu pour le fret et pour les ferries vers la Corse et vers le Maghreb. En revanche, on pose une question, c'est est-ce qu'il est normal qu'on mette des dizaines de millions d'euros d'argent public pour financer une installation qui va être utilisée par des compagnies qui sont les championnes de l'évasion fiscale. Les croisières devraient payer elles-mêmes pour réduire les nuisances qu'elles apportent sur les territoires. Il faut avoir en tête que pour les plus gros bateaux de croisière, c'est comme si on alimentait électriquement une ville de 20 000 habitants. Donc en fait, quand on nous dit éteignez votre box, baissez votre chauffage en hiver, vous comprenez, on a des pics de consommation et que dans le même temps, on finance publiquement une installation électrique pareille, nous on trouve que c'est un vrai scandale.
Il n'y aura pas de coupe budgétaire dans le plan France 2030. Ce plan de 54 milliards d'euros lancé il y a 2 ans pour investir dans l'innovation, notamment pour décarboner l'énergie. Propos aujourd'hui du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, dans le journal La Tribune, dimanche. Dans 3 mois, les élections européennes et cet après-midi, entrée en campagne à Lyon de Raphaël Glucksmann pour la liste socialiste et à Paris, entrée de Marion Maréchal pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Joe Biden prend encore un peu plus ses distances avec Benjamin Netanyahou à cause de la stratégie israélienne dans la bande de Gaza. Propos tenus cette nuit sur la chaîne MSNBC. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour.
Oui pour défendre Israël, mais attention aux vies innocentes, réclame le président américain, sans que l'on ne sache très bien où se situe la ligne rouge.
Oui, on savait le président américain remonter contre Benjamin Netanyahou. Il avait eu quelques petites phrases assassines en marge de son discours sur l'état de l'Union vendredi. Comme quoi, disait Joe Biden, il fallait qu'il ait une explication de gravure avec Bibi. Mais là, c'est dans une interview en bonne et due forme que le président américain a estimé que pour ce qui est d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, Netanyahou faisait davantage partie des problèmes que des solutions.
Il a le droit de défendre Israël, le droit de continuer à attaquer le Hamas. Mais il faut qu'il fasse plus attention aux vies innocentes perdues à cause des actions entreprises. À mon avis, il fait plus de mal que de bien à Israël. Je pense que c'est une grosse erreur et je veux un cessez-le-feu. Mais je n'abandonnerai jamais Israël.
Interrogé sur l'existence d'éventuelles lignes rouges qu'Israël ne devrait pas franchir, Joe Biden a été ambigu, parlant d'une possible offensive sur Rafah comme d'une ligne rouge, tout en précisant les choses.
Il n'y a pas de ligne rouge où je veux arrêter totalement les livraisons d'armes, mais ce n'est pas possible que 30 000 Palestiniens de plus meurent.
Les Américains ont adressé fin février une demande d'engagement écrit, comme quoi Israël promettrait de respecter les lois de la guerre dans son emploi d'armes et de munitions américaines. Les Américains ont exigé une réponse d'Israël pour le 15 mars.
Éric Biegala de la rédaction internationale de France Inter. Un premier navire humanitaire est prêt à quitter Chypre pour Gaza avec 200 tonnes d'aide alimentaire à bord. L'Union européenne espère ouvrir dès aujourd'hui, pourquoi pas, ce corridor maritime pour aller ravitailler le territoire palestinien touché par la famine et bombardé par Israël. D'ailleurs, d'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 23 personnes sont mortes à Gaza de malnutrition et de déshydratation. Qui pour gouverner le Portugal après 8 années de pouvoir socialiste? Élections législatives anticipées aujourd'hui. Le Parlement portugais pourrait virer à droite. Les premiers résultats sont attendus ce soir à 21h. Un des thèmes majeurs de la campagne aura été le coût de la vie et plus particulièrement la question du logement. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
En direct de Lisbonne, au Portugal, les avis d'expulsion ont progressé de 17% l'an dernier, sachant que les loyers ont beaucoup augmenté ces dernières années.
Oui, plus 20% rien qu'en 2023 à Lisbonne. Installation au Portugal d'étrangers avec un fort pouvoir d'achat, progression des locations touristiques dans les centres des grandes villes. Tout cela a joué un rôle. Anna est employée dans un centre commercial de Porto.
J'ai des neveux qui sont étudiants à l'université et qui travaillent à mi-temps. Ils vivent toujours chez ma sœur. Ils n'ont pas les moyens de se loger, c'est impossible. Par exemple, dans ce bâtiment-là, ils ont vendu 2 appartements, 250 000 euros pour 56 mètres carrés. C'est pas possible.
Le gouvernement a tenté d'encadrer la hausse des prix des loyers, par exemple, mais sans y parvenir complètement. L'économiste Ana Pazos soutient, avec son association DECO, près de 20 000 familles endettées.
Le problème, ça a été l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. On soutient les familles les plus vulnérables, mais en 2023, on a aussi aidé beaucoup la classe moyenne. Parce que, quel est le problème au Portugal? 73% des familles ont un crédit immobilier, 95% ont un taux variable. Pour un crédit de 150 000 euros sur 30 ans, avant, ils avaient à payer 400 euros par mois, maintenant c'est 800.
Et le SMIC, il est au Portugal à 820 euros. Les socialistes l'ont d'ailleurs augmenté début 2024 et presque tous les partis ont promis pendant cette campagne des nouvelles hausses.
Julie Pietri, envoyée spéciale de France Inter au Portugal avec les moyens techniques de Johanna Gabri. C'était il y a 65 ans, jour pour jour, le 10 mars 1959, le peuple tibétain se révoltait contre l'occupation chinoise. Mouvement réprimé dans un bain de sang. Et bien 65 ans après, la répression chinoise continue contre les Tibétains. Arrestations, destruction de sites religieux, dénoncés d'ailleurs par l'ONU. Et ces dernières semaines encore, la dictature chinoise a été particulièrement active au Tibet, Nathanaël Charbonnier.
Les associations tibétaines et ONG documentent régulièrement sur les atrocités commises par les Chinois au Tibet. Destruction de la culture, de la religion, de l'identité et depuis quelque temps pillage des ressources naturelles et construction de barrages gigantesques. Rinxin Zhenkang du bureau tibétain à Bruxelles.
Dans la ville de Dergué, il y a des manifestations pacifiques qui ont été vraiment réprimées par des arrestations de plus de 1000 Tibétains. C'était en fait contre un projet de barrage qui aura des conséquences. Des milliers de Tibétains seront déplacés.
Et plus de 70 ans après l'arrivée des Chinois au Tibet, le pays du Dalaï Lama résiste toujours. Car si Pékin s'est mis trop pas les populations, le régime communiste ne s'est pas muselé l'âme du peuple tibétain, estime l'ancien correspondant à Pékin pour l'AFP et auteur du livre « Chine, l'Empire des illusions », Pierre-Antoine Donnet.
Je pense qu'ils n'y arriveront à vrai dire jamais. Il y a une force intérieure chez les Tibétains qui n'arriveront pas à vaincre. Cette assimilation, elle est rejetée. Mais voilà, et les Tibétains sont trop forts.
Des Tibétains qui peuvent compter sur leur diaspora dans le monde. Un rassemblement de soutien est d'ailleurs prévu ce 10 mars au Trocadéro à Paris.
Nathanaël Charbonnier, le tournoi des 6 nations, c'est du rugby. Avec une question, comment redonner confiance aux Bleus? Le 15 de France, très décevant depuis le début de la compétition, jouera cet après-midi, 16h, à Cardiff face au Pays de Galles. Fabien Galthié, le sélectionneur, a rajeuni l'effectif en espérant bien redonner un peu de peps à son équipe à Cardiff. Vincent Pellegrini.
Fabien Galthié n'est pas un adepte des bouleversements d'un match à l'autre. Mais cette fois, entre les blessures et les piètres résultats de son équipe, il a opté pour une certaine audace et offert une première titularisation à 4 jeunes joueurs.
C'est des gars qui ont construit leur parcours et qui ont été opiniâtres et qui sont venus chercher le maillot.
Léo Barret à l'arrière, Nicolas Deporter au centre, Nolan Le Garec à la mêlée et Emmanuel Méafou en deuxième ligne vont donc tenter d'apporter un vent de fraîcheur aux 15 tricolores, ce qu'ils font déjà dans le championnat de France, souligne l'entraîneur des avants, William Servat.
Quand on se rend compte que sur les clubs, la jeunesse arrive à prendre le pouvoir sur les clubs de top 14 tous les week-ends, cette euphorie qu'il peut y avoir, cet enthousiasme qu'il y a et qui permet justement aux équipes d'exister. Et aujourd'hui, l'équipe de France bénéficie de ses qualités de joueur autres qui pointent un petit peu le bout de leur nez.
S'ils brillent dans le top 14, ces jeunes novices savent bien, à l'image de Nicolas de Porter, qu'il y aura un palier à franchir cet après-midi.
Niveau international, bah, ça va plus vite, ça tape plus fort. Après, dans nos clubs, on est vraiment entraîné pour et on va donner le meilleur pour réussir. Ouais.
Et cela dans l'ambiance toujours volcanique du Millennium Stadium, face à une équipe galloise en quête de rachat après avoir perdu ses trois premiers matchs dans ce tournoi. Cardiff, Vincent Pellegrini, France Inter.
Pays de Galles, France, à 16h, heure de Paris. On va prendre la température des Oscars. Ce sera la nuit prochaine à Hollywood, vers minuit, heure française. Et bientôt donc l'heure de vérité pour le film français Anatomie d'une chute. Après le festival de Cannes, après les Golden Globes, après les Césars, entre autres, ce long métrage de Justine Triet est en lice pour 5 Oscars, notamment dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation. Toute l'équipe du film est donc sur place à Hollywood. Comme a pu le constater notre envoyé spécial Alexis Demeyer.
Si le duo Justine Triet-Arthur Harari préfère se faire discret à l'approche de la cérémonie, le reste de l'équipe profite à fond de la vie californienne. C'est le cas par exemple du comédien Swan Arlo, surnommé The Sexy Lawyer de ce côté-ci de l'Atlantique.
J'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, donc c'est assez fou de voir ça. Et puis je crois qu'aucun de nous s'attendait à ça, quoi. Il y a 4 jours, là, j'étais en tournage en Norvège, donc je reviens, je suis un peu azimuté. Je suis dans une sorte de jet lag permanent. Il faisait moins 20 là où j'étais. Là, il fait plutôt plus 20. Donc, je suis sur un hiatus de 40 degrés là.
Un peu de fébrilité, en revanche, du côté de la productrice Marie-Ange Luciani.
On est fatigué. On sent que c'est bientôt la fin. Donc, on est dans un état un peu entre excitation, peur de ne rien avoir peut-être, et peur que tout ça se termine aussi. Mais toujours tous ensemble. Et il fait très chaud, il fait très beau. Il y a une lumière magnifique. On essaie d'en profiter là jusqu'au bout.
Ouais. Quoi qu'il arrive ce soir, cette aventure met la lumière sur le cinéma français, ce qui ravit forcément le patron d'Unifrance, Gilles Pélisson.
C'est une année assez exceptionnelle parce qu'on a ce champion qui est Anatomie d'une chute. Il a dépassé maintenant les 3,4 millions à l'étranger et surtout, je crois, ce qui marque, c'est la longévité dans les salles, c'est-à-dire que le public, une fois qu'il a découvert le film, le bouche à oreille fonctionne.
Et ce n'est pas terminé puisqu'à la fin du mois, Anatomie d'une chute tentera de conquérir la Chine.
Alexis Demeyer et le compte-rendu dans notre matinale de demain, lundi. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin. On repart sur les routes de Normandie à bord de notre drôle de camion à poissons avec 2 chefs cuisiniers. Ils sillonnent les routes pour faire déguster les poissons boudés par les consommateurs à cause de leurs arêtes ou bien parce qu'ils ne ressemblent à rien, des espèces qui ne se vendent pas, donc alors qu'elles sont pourtant goûteuses et très bon marché. Ce sont de vraies pépites, d'où le nom de ce fish truck, poisson pépite de Normandie.
Je vous présente Pépette la Roussette, en rouge. Pépette la Roussette est accompagnée du taco, par exemple, le congre, le rouget grondin. On a aussi la tombe, on a les missoles. La vocation de ce camion, c'est de faire redécouvrir un petit peu toutes ces espèces au grand public.
En clair, en finir avec le délit de sale gueule et ouvrir la bouche.
C'est bon, excellent ça.
On va vous mettre un tupperware.
Vous savez à quoi ressemble une roussette?
Pas du tout.
La petite roussette. Voilà, c'est un beau petit requin. Hein.
Ouais, sympa. Hein.
C'est très bon.
Ça à la maison. C'est souvent que le monde arrive comme ça, les curieux là.
Tout le temps. Dès qu'on commence à cuisiner, tout le monde vient nous voir. Puis dès qu'on fait manger quelqu'un, généralement, l'appel du ventre. Ah ouais, tiens, la tombe. Est-ce que vous connaissez la tombe?
Non.
Ah. Alors ça, c'est par exemple, c'est le cousin du rouget.
Ah oui, d'accord.
Et le congre. Ça, vous connaissez le congre? C'est à peu près le même goût que la lotte, par exemple.
Vous trouvez ça comment?
Génial, génial.
Ça permet de, à moindre coût, de manger du poisson déjà, parce qu'on n'achète pas de la lotte tous les jours, hein. C'est horriblement cher, et c'est des bons poissons.
La preuve, les papilles les plus difficiles succombent.
Bien mon chéri, est-ce que tu aimes les pâtes?
Oui.
Est-ce que tu aimes les lardons?
Oui.
Regarde, c'est une carbonara de roussette. Regarde, tu vas goûter, tu vas me dire si c'est bon ou pas. Tu me dis directement si c'est bon, d'accord? Tiens, prends la cuillère, c'est bon ou pas?
Oui.
Alors ça, c'est un poisson. Est-ce que tu veux que maman et papa ils refassent à la maison?
Oui.
Vous connaissiez cette recette?
Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on achète comme poisson? Du lieu, du saumon, du cabillaud, pas de roussette.
Jean-François.
Ce sont des poissons moches. Parfois, ces poissons ont des yeux globuleux, ils ont des dents acérées, donc on n'a pas envie de s'y frotter. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, entre guillemets.
Et pour vous, c'est du gâchis?
Et pour nous, c'est du gâchis.
Ludovic.
Les océans, les mers en l'occurrence, regorgent de poissons différents. Et il ne faut pas qu'on aille toujours vers le même poisson. Le cabillaud, par exemple, lui, c'est un poisson qu'on a beaucoup pêché. On commence à faire du cabillaud d'élevage, pour moi, c'est pas normal. Alors qu'on a plein de poissons sur nos côtes qui, justement, peuvent remplacer gustativement le cabillaud ou d'autres poissons. Et au niveau au prix, c'est extraordinaire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est deux fois, voire trois fois moins cher. Quand on est à 50 euros sur du turbo, ben, je pense qu'il vaut mieux parfois acheter de la roussette. Non seulement c'est bon gustativement, mais c'est bon pour le porte-monnaie.
La roussette façon fish and chips avec une sauce tartare, oh, sublime.
Voilà, des recettes simples et pas chères sur le site Poisson Pépite de Normandie.